Merci bien, Mme Dété, parce que je suis par ailleurs sur mon temps personnel bénévole pour une ONG. Je coordonne un groupe de travail sur les forêts. Et il me semble que le plus gros reproche qu'on fait au MDP, c'est le principe de compensation. Et alors, je n'ai pas très bien compris si vous l'avez pris en compte dans vos critiques, en fait, enfin, dans les critiques qui étaient mentionnées, c'est-à-dire à savoir les impacts que ça a en termes de psychologie humaine dans les sociétés des pays du Nord. C'est-à-dire que le MDP, en fait, est un peu un processus qui permet, en fait, aux entreprises dans les pays du Nord de ne pas faire de travaux pour améliorer leurs installations et polluer moins. Et voilà, donc je voulais juste savoir si vous aviez pris en compte cet aspect critique du MDP, parce que enfin, je pense que c'est vraiment le plus gros reproche qu'on peut faire.
Alors, c'est, comment on dit, ça ne ressort pas des journaux qu'on a dépouillés. Par contre, on a eu indirectement ce genre de critiques via des ONG qui ont refusé de suivre le mécanisme en contestant son efficacité, en disant que c'est un mécanisme justement de compensation qui évite de faire des réductions domestiques. C'est-à-dire que les pays, qu'ils soient développés ou en développement, plutôt que de prendre des mesures nationales pour réduire les émissions à l'intérieur du pays, préfèrent aller faire ça ailleurs. Et du coup, on peut s'attendre à ce que, justement, une des conséquences soit que, dans les pays développés ou en développement, qu'il n'y ait pas de politique nationale et rigoureuse pour s'attaquer au problème. On a eu ça de la part de certaines ONG qui ont refusé, justement, de suivre le mécanisme. Et du coup, on a eu du mal, justement, à voir CDM Watch et Noé 21 qui sont vraiment les rares qui sont impliqués. Beaucoup ont refusé en disant c'est un mécanisme qui, enfin ouais, c'est
pervers.
Ouais, c'est pervers, ça développe des effets pervers.
Oui, donc si j'ai bien compris, développement propre, ça veut dire développement sans carbone.
Oui, bien
sûr. C'est bien ça, oui. Développement propre.
Alors, bon, enfin, c'est un terme qui, historiquement, apparemment, c'est dû, en fait, au Brésil. Hein. C'est le Brésil qui, au moment de la négociation du protocole de Kyoto, a mis ça sur la table. Mais le Brésil appelait ça « fonds pour un développement propre ». Et l'idée du Brésil, en proposant, c'était que les pays qu'on avait reconnus comme étant responsables, historiquement responsables, c'est les pays développés, que ces pays développés créent un fonds qui aiderait les pays qui se considèrent comme victimes à lutter contre les effets du changement climatique. Donc c'était un fonds pour un développement propre, pour les pays en développement. Sauf que lorsque le Brésil l'a proposé à Kyoto en 1997, ça avait été débattu, ça n'avait pas eu beaucoup de succès, ça avait été rejeté par les pays développés, qui voyaient ça comme une punition de plus. Alors, par contre, dans les débats, dans les négociations, les États-Unis avaient réussi à retourner ça, à dire, tiens, bon, si on nous demande d'investir dans un pays en développement, de faire un fonds, du coup, c'est quelque chose qui peut aller aussi dans notre sens. D'où, justement, le fait que ça soit devenu un mécanisme de flexibilité pour faciliter l'application du protocole par les pays qui avaient des engagements. Donc les États-Unis avaient réussi à retourner ça et en lui donnant ce nouveau nom, mécanisme pour un développement propre. Et en rentrant ça dans le parquet, enfin c'est Al Gore qui conduisait la délégation américaine, en créant ces mécanismes de flexibilité, il y a MDP, MORC et les permis internationaux, c'était pour faire en sorte que des pays qu'on qualifiait durs, de radicaux, le groupe de l'Ombrella, comme on l'appelait, puissent être en accord et considérer que ouais, ça vaut le coup d'accepter le protocole parce qu'il y aura des mécanismes de facilité.
Mais justement, est-ce que le protocole, il me semble, le protocole de Kyoto aujourd'hui, il paraît-il, il est mort, non ? Il est terminé, il est...
Non.
Non ?
Pas du tout.
Non. Alors, donc, la première phase d'application s'achève en 2012, c'était 2008-2012. Tout le débat, oui, toutes les négociations depuis Bali, depuis la feuille de route de Bali.
Et...
Non, alors, les décisions de Durban, on a prolongé, enfin moi j'appelle ça période probatoire, on a décidé que comme il n'y a pas eu de nouveau traité ou un prolongement au-delà de 2012. On continue, les pays vont déclarer officiellement des nouveaux engagements en décembre prochain, décembre 2012, au Qatar. La prochaine COP, c'est à Qatar. Donc, on a acté le fait qu'il y aura une nouvelle période 2013-2017. Une nouvelle période. Et tous les mécanismes qui fonctionnent aujourd'hui vont continuer durant cette période. Seulement, on a donné jusqu'en décembre 2012 aux États pour qu'ils disent sur quels engagements ils vont continuer le protocole.
Le bilan global est positif ou pas, finalement ?
Le bilan global est positif. Alors, oui. Lorsqu'on regarde les évolutions des émissions des pays qui ont des engagements, il y a une tendance à la réduction. Ça, c'est incontestable. Hein. Les pays qui ont des engagements, l'Union européenne, enfin, il y a une réduction des émissions sur la période 2008, 2010, 2011. Seulement, au final, c'est assez inefficace parce que les pays qui ont des engagements sont minoritaires, enfin les émissions des pays qui ont des engagements. D'ailleurs, plus globalement, les pays développés, leurs émissions aujourd'hui sont inférieures aux émissions des pays en développement. C'est de l'ordre de 48-52, c'est-à-dire tous les pays en développement réunis émettent plus que les pays développés. Parce que dans les pays en développement, on compte les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil. Donc le protocole, même si on remplit l'objectif global qui est de 5% de réduction en 2012, au final, on n'aura pas avancé dans la résolution du problème du changement climatique.
Oui, il y a des disparités, hein, parce que les États-Unis ne sont pas partie prenante d'une part. D'autre part, dans les pays développés, un pays comme le Canada n'a absolument pas respecté ses engagements. Les émissions canadiennes ont augmenté de, 25%, 30%. Par contre, un pays comme l'Australie est rentré, etc. Donc là aussi, c'est extrêmement disparate. Donc la comptabilisation est quand même relativement compliquée, disons, à situer. Bon, je pense que...
Pour le Canada qui s'est justement retiré du protocole, qui n'entend pas repartir sur cette période probatoire qui a été décidée.
Voilà. Mais on peut dire quand même que, les jugements qu'on entend en France, les jugements de la presse, etc., sont souvent un peu, sont assez à l'emporte-pièce, disons, et ne tiennent pas compte, ne tiennent pas toujours compte en tous les cas de ce qui est quand même la réalité du protocole, de la prégnance des engagements. Un pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre ont réduit leurs émissions, l'Allemagne de 20%, l'Angleterre de pas loin de 20% aussi. Hein. Donc c'est là aussi, il y a des éléments, disons, de résultats qui sont quand même des éléments tout à fait importants et tout à fait intéressants, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces réductions ont été faites, même par l'Allemagne, etc. Hein. Donc je pense que le jugement qu'on peut avoir autour du protocole de Kyoto devrait être un jugement relativement mesuré et contrasté qui tienne compte effectivement de tout un ensemble de spécificités et de diversités. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, ce qu'on voit là, c'est aussi le dévoiement de certains, enfin le dévoiement entre guillemets, mais quand même, de certains processus liés effectivement au processus au protocole de Kyoto. Donc ça fait partie aussi justement du jugement contrasté qu'on peut avoir par rapport au protocole de Kyoto. Mais je crois que c'est très intéressant justement d'avoir cet éclairage qu'on a finalement relativement peu. C'est même dans une presse qui est une presse, disons, qui se veut relativement attentive, disons, à ces processus et à ces phénomènes.
Et votre commentaire est vraiment approprié parce que lorsqu'on discute avec ces ONG qui suivent le protocole, effectivement, leur réponse est de dire, malgré ces critiques, malgré ces défaillances, c'est quand même quelque chose. Y compris le MDP, c'est innovant, c'est pour la première fois que ça a été fait. Ça existe, on ne peut pas rejeter d'emblée comme ça. Ça a permis d'innover, de faire un transfert de technologie. Et donc, voilà, c'est...